Les goélettes de Charlevoix sillonnaient le fleuve Saint-Laurent pour ravitailler les villages en vive, transporter le bois vers les papetières. C'est 300 ans de relation avec le fleuve. On a beaucoup parlé de ces hommes et de la mer, du Saint-Laurent, si difficile à naviguer, qui prenait des vies au gré des tempêtes. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment des femmes qui restent à terre, les terres de roche de Charlevoix? On a bien peu parlé d'elles. Elles étaient épouses, mères, cuisinières, gestionnaires, mais aussi entrepreneurs, développeurs, rarement navigatrices, mais parfois membres de l'équipage. À travers ce balado de six épisodes, on s'invite chez ces femmes au pays des goélettes.
À ce moment-là, c'était l'étendard. On faisait du transport, c'était sur la côte, en fait, partir de, je dirais, des Escoumins jusqu'à Montréal. C'était à peu près les distances qu'on faisait. Il y avait surtout beaucoup de transport de pulpe. Alors, ils chargeaient la pulpe sur la côte nord, du côté de Baie-Sainte-Catherine, Tadoussac, Saint-Siméon. Tous les villages de la côte, c'était pour aller soit à Beaupré, à ce moment-là, il y avait l'usine à papier à Beaupré, ou bien Donnacana. On allait à Donnacana ou Trois-Rivières. Ça dépendait où des vendeurs vendaient leur bois. Nous, on faisait que le transport. Puis pour le retour, souvent, c'était du transport marchandises que les villages commandaient dans les grands magasins. Et puis on faisait la livraison dans les villages.
Alida Bouchard de Petite-Rivière-Saint-François a navigué sur l'étendard dans les années 40. Il faut rappeler qu'au tournant du 19e siècle, le Saint-Laurent, c'est l'autoroute 20. On parle de navigation domestique, des grands lacs à Terre-Neuve. On navigue 8 à 9 mois par année, d'avril à novembre à peu près. Des équipages surtout familiaux. On dit en fait qu'un bateau fait vivre une famille. Ici Marie Grégoire. Dans ce premier épisode, essentiellement, on parle d'affaires de femmes. Donc, de femmes collaboratrices de mille façons, de femmes qui restent plus souvent qu'autrement à terre. Certains vont dire à attendre. Moi, j'ai envie de dire à entreprendre. Loin d'être didactique, notre volonté, c'est de vous faire découvrir de façon, je dirais même ludique, des paroles de femmes qui ont vécu, observé, qui se sont passionnées des goélettes. Pour nous faire voguer à travers les flots de leur histoire, la musique de Stéphane Tétrault, violoncelliste, et de Noëlla Huet, mezzo-soprano, avec l'accompagnement de la douce voix de David Bouchard, comédien.
Mon bel amour, navigateur, mage ouverte sur les songes, tu sais la carte de mon cœur, les jeux qui te prolongent. Et la lumière chantée de ton âme, mon bel amour navigateur. Et la lumière chantée de ton âme, mon bel amour navigateur.
Être femme de marin, c'était très dur. Quand je me suis mariée, ma mère, elle avait marié un capitaine, puis elle m'avait dit, tu sais, si tu maries un capitaine, tu ne l'auras jamais avec toi. Pense-y comme il faut. Mais j'ai dit, quand on l'aime capitaine, on avait ça toujours dans la tête. Il partira, puis quand il reviendra, je le prendrai. Ça a toujours été comme ça. Femme de marin, il faut que ce soit fait fort pour passer à travers les difficultés. Annette Desgagnés, épouse du capitaine Maurice Desgagnés, entrevue donnée en 1981 à Saint-Joseph-de-la-Rive.
Pour parler de ces femmes qui restent à terre, on a avec nous quelqu'un qui a vraiment creusé la question, Marie-Pierre Bouchard, qui est originaire de Charlevoix, puis qui a décidé de prendre ses racines qui sont bien ancrées dans le fleuve Saint-Laurent du côté de ses deux grands-mamans et de creuser ça pour aller vraiment en
je dirais en profondeur, il faut le dire comme ça, à travers un projet de maîtrise où elle est allée à la rencontre de ces femmes de marins, entre autres, et elle nous parle de l'expérience lors des migrations saisonnières masculines dans la région de Charlevoix de 1940 à 1980. Et son mémoire de maîtrise a été publié en 2017. Marie-Pierre Bouchard, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi s'intéresser aux migrations des femmes dans Charlevoix?
En fait, ce qui est très intéressant avec ce sujet-là, c'est un peu comme vous le dites, ça a été très peu creusé et on se rend compte qu'on s'est beaucoup intéressé à ces hommes qui partaient, qui allaient naviguer, qui quittaient la région périodiquement et on n'a pas beaucoup regardé qu'est-ce qui se passait du côté des femmes qui, elles, restaient. Et finalement, on se rend compte que c'est tout un pan de l'histoire qu'on a un peu oublié, auquel on ne s'est pas intéressé. Et là-dedans, il y a quelque chose d'une histoire de résilience, une histoire d'enracinement qui est très intéressante à creuser. Et c'est finalement toute la face cachée de l'histoire de la navigation qu'on découvre quand on s'intéresse à cette question-là.
Puis, est-ce qu'il y a une grosse différence? Parce qu'on a vu, par exemple, dans les romans de Arlette Cousture, le beau villa qui part au bois. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ces femmes qui restent à terre parce qu'elles sont veuves de marins et celles qui restent à terre parce qu'elles sont veuves de bûcherons?
Je dirais que, bien que leur expérience est quelque chose de commun, évidemment, dans le fait de ces départs-retours du mari, il y a quand même une différence, puis ça, on s'en rend compte, justement, quand on parle avec des femmes qui ont vécu différents types d'immigration et des femmes qui ont vécu, par exemple, aussi de leur mari qui parfois a été bûché, qui parfois aussi a été navigué. Et le monde des navigateurs, c'est un monde un peu à part, on a l'impression. C'est vraiment un métier qui est très, très rythmé par la température, par les marées. Et ça a un impact aussi pour les femmes qui, elles, vont rester, qui vont vraiment avoir un regard très tourné vers la mer, il y a quelque chose dans l'attente aussi, qu'il faut être un peu plus en mesure d'y aller avec les aléas de la température, de la vie. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus, je dirais...
De la résilience?
Oui, de la résilience. Je pense que ça prend de la résilience pour toutes les femmes qui ont un mari qui partent, mais il y a peut-être un peu plus de lâcher prise, parce qu'on ne sait pas quand le mari va revenir, encore moins. Et donc, ça crée une catégorie un peu à part, là, je dirais.
Puis à quoi ça ressemble, les conditions de vie de l'époque, quand ces femmes, justement, restent à terre à attendre? Est-ce qu'elles, on disait, certaines ont entrepris, mais bon, elles s'occupent des enfants. Comment ça se passe au quotidien?
C'est sûr que c'est pas toujours des vécus qui sont évidents. Quand on recule un peu dans le temps aussi, il y a toute cette question des communications qui sont pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Il y a pas Internet, il y a pas Instagram, là.
Non, c'est ça. Puis il y a même pas encore le moyen de communiquer sur le bateau. Faut attendre que le mari atteigne le port. Donc, très peu de communication parfois. Là, on peut passer beaucoup de temps sans avoir de nouvelles.
Est-ce qu'on s'écrit?
On peut s'écrire des fois, mais je dirais que je me suis rendu compte dans mes recherches, l'écriture a peut-être plus une fonction presque... c'est pas par là qu'on va faire des communications rapides, là. C'est presque plus romantique, tu sais, on garde les lettres, tout ça. On va souvent, par exemple, avoir une femme qui va avoir des nouvelles pour les autres, puis qui va avoir reçu un petit coup de téléphone, tout ça. Puis
donc, une grande solidarité.
Ça. Oui, surtout dans les villages où il y a une très grande prégnance de ces départs. C'est les villages de navigateurs, là, comme on dirait, par exemple, à Saint-Joseph-la-Rive, il y a beaucoup de femmes, donc leur mari part, et il y a une sorte de communauté qui de solidarité là, qui se crée entre elles.
Bien, donc, j'imagine que chacune a ses forces et elle s'entraide en fonction de ça. Donc, certaines sont les communicatrices, d'autres sont les organisatrices.
Bien, en fait, j'imagine que peut-être les rôles changent d'une fois à l'autre, mais oui, évidemment, de cette question de solidarité-là, de complémentarité, d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Mais je pense aussi que c'est une situation qui crée énormément d'autonomie et d'indépendance chez ces femmes-là parce qu'on ne va pas toujours vouloir se remettre à l'aide des autres puis toujours demander. Là. Donc, il y a beaucoup, une grande autonomie aussi. Là.
Puis ça, on l'entendait tantôt dans l'extrait d'Annette, c'est que justement, elles savent que c'est leur choix de vie. Donc, elles savent qu'elles vont avoir à être très autonomes.
Exactement. Puis on parle beaucoup, là, quand on parle de marins, que c'est vocationnel. Mais je pense aussi que les femmes de marins, c'est vocationnel.
Ah, que c'est beau! Donc, c'est une vocation d'être une femme de marin.
Bien, je pense que oui, parce que comme justement, on l'entend dans l'extrait, les femmes qui choisissent de prendre pour époux un marin, c'est des femmes qui savent un peu à quel genre de vie elles doivent s'attendre. Puis quand elles font le choix de marier cet homme-là, elles font le choix, si on veut, de cette vocation aussi. Elles savent que leur vie va être rythmée justement par ces départs, retours, par ce regard tourné vers la mer. C'est pas n'importe quelle femme qui pourrait décider d'embrasser ce genre de vie-là, je pense.
Dans nos courses au large, il t'arrivait parfois, si l'homme consentait à me céder la barre, d'aller t'asseoir vers le Beaupré, face à la mer. Et moi, fixant le point qui me servait d'amarre, la balise ou l'écueil, le clocher ou le phare, je guidais le bateau sans te perdre des yeux. Un léger tour à gauche, un léger tour à droite, du récif, tu glissais au clocher qui miroite. Tout le ciel pivotait sur de fluides essieux. Sirène que la brise adorable échevelle, que la voile en jouant me cache ou me révèle, chère image mêlée à l'horizon mouvant, c'était toi, me disais-je, à la minute extrême des 20 ans, c'était toi, ce deuxième moi-même, plus lyrique et plus vrai dans un miroir vivant. Ah, lumineuse aimée, ah, figure de proue. Oui, tu m'appartenais. D'un simple tour de roue, je te portais à droite, à gauche, à volonté. Enfin, je le tenais, cet esprit indompté.
Au mois d'avril, là, avant de partir, là, il y avait toujours un petit coup à faire. En fin de compte, il partait en paix. Il était sûr de lui, un enfant en marche. Annette Desgagnés, épouse du capitaine Maurice Desgagnés. Entrevue donnée en 1981 à Saint-Joseph-la-Rive.
Marie-Pierre Bouchard, on a parlé de l'autonomie que ces femmes-là devaient développer. Puis, il y a différents niveaux, dans le fond, avec lesquels ils doivent composer. Le niveau économique, j'imagine qu'ils doivent gérer le budget familial pendant que leur homme est parti. Le niveau familial, c'est elles qui deviennent les chefs de famille. Et le niveau communautaire, on en a un peu parlé là, du fait qu'elles s'organisent un peu entre elles, mais veulent être autonomes différemment dans leur propre famille. Comment ça s'organise, tout ça?
Oui, bien, on se rend compte, là, finalement, déjà quand on s'intéresse aux tâches que peut avoir une femme en temps normal, sans que son mari parte, c'est déjà une charge qui est assez importante. Donc, quand le mari n'est pas là, bien, c'est sûr qu'il se rajoute une couche. Puis c'est sûr que pour celles dont le mari était propriétaire d'une goélette, bien là, au niveau économique, il y a à la fois, oui, la gestion du budget familial, mais souvent, elles vont faire de la comptabilité, elles vont s'occuper un peu des comptes de l'entreprise.
Sont administratrices de l'entreprise pendant que leur mari est parti.
C'est ça. Puis, donc, à côté de tout ce volet-là, il y a évidemment aussi toutes les tâches familiales qui vont leur incomber. Donc, tout faire les tâches qu'on dit traditionnellement féminines, couture, tissage, ménage, tout ce que vous voulez. Et ensuite, évidemment, s'occuper des enfants. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être peut-être encore plus lourd à porter parce que le mari n'est pas là, donc le père n'est pas là non plus.
Ça veut dire qu'elles doivent exercer l'autorité encore plus.
Ben oui, c'est ça. Donc, ce rôle...
Il n'y a pas le rôle du gentil et du méchant, là, souvent, qu'on retrouve dans un père et une mère, un qui est plus doux. Là, elles doivent occuper tous les rôles, tout l'espace.
Exactement. Puis, c'est ça un peu que certaines me disaient. Là, il y a un peu cette pression de vouloir remplacer ce manque ou ce vide-là qui est peut-être créé par l'absence du père. Et donc, il faut qu'elles soient à la fois aimantes, présentes pour leur enfant, mais en même temps, elles se mettent souvent une très lourde responsabilité que leurs enfants comme grandissent bien, se développent bien, même si leur père n'est pas souvent là. Donc, c'est peut-être émotionnellement assez lourd à porter. Quand
oui, on peut... La charge mentale est forte.
Oui, oui.
On peut dire ça comme ça. Mais comme elles apprennent à se débrouiller toutes seules, quand les hommes reviennent, là, ça se passe comment?
Bien, c'est pas toujours évident.
Ça
dépend beaucoup d'une situation à l'autre. Puis je dirais qu'un des facteurs qui fait énormément varier aussi, c'est la durée des départs. Donc, plus les hommes partent longtemps, évidemment, que quand ils reviennent, ça a tendance à être un petit peu plus difficile parce qu'on a vraiment dû composer avec une absence à très long terme du mari. Donc, quand il revient, là, il y en a qui vont me dire c'est presque comme de la visite qui entre à la maison. Faut essayer de... C'est plaisant, mais en même temps, il n'y a plus sa place, il ne trouve plus sa place, puis il faut lui redonner un peu de place. Mais nous, on est habitués à tout gérer aussi, donc c'est pas évident. Là.
Puis comment elles font, justement, parce qu'on a dit la période de navigation varie à peu près de 8 à 9 mois. Parfois, certains vont revenir une fois de temps en temps selon les maris, mais ils trouvent quel truc pour être en mesure d'apprivoiser ces allers-retours-là?
Bien, je pense qu'il y a toujours un temps d'adaptation qui est nécessaire au retour du mari. Justement, plus le départ a été long, plus peut-être le temps d'adaptation va être long. En même temps, le retour, c'est aussi synonyme là, pour bien des femmes un peu d'une fête.
Oui.
C'est beau, on est content de le revoir, mais il y a quand même un temps où il faut qu'on s'adapte. On s'adapte avec les enfants, on s'adapte avec, justement, c'est qui a cette autorité-là. Il y a bien des femmes qui veulent pas nécessairement redonner cette autorité traditionnelle aux pères de famille, si on veut, parce qu'elles sont habituées d'assumer ce rôle-là. D'autres, par exemple, vont dire... sont contentes là, de délester un peu de la charge et aller reprendre leur
rôle. C'est les vacances un peu,
oui,
là.
C'est ça.
Donc, on retrouve un peu ses repères, on est capable de partager les tâches, donc on est en mesure de retrouver un certain normal. Mais entre tout ça, il y a beaucoup, j'imagine, de solitude que vivent ces femmes-là?
Oui, énormément. C'est sûr que bien, le fait de vivre dans un village, justement, où il y a beaucoup de femmes de marins, ça peut aider parce qu'on a des femmes à qui parler, qui connaissent aussi la même situation. Parce que, je dirais, dans le cas de celles qui ont peut-être moins eu cette proximité d'autres femmes qui vivaient la même situation, elles m'ont dit qu'elles ne se sentaient pas toujours comprises, que ce n'était pas facile quand, par exemple, elles avaient de la famille qui avait des sœurs, par exemple, que leur époux était toujours là. Bien, on a peut-être des fois un peu le sentiment qu'elles vont... Même si elles essaient de comprendre, elles ne peuvent pas tout à fait comprendre ce qu'on vit. Et quand on a des femmes à qui partager, bien, c'est sûr que ça aide. Malgré tout, c'est sûr que les questions de l'attente, de la solitude reviennent énormément quand on parle de ce genre de vécu-là, parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là, puis on aurait
qu'il soit là.
Voulu qu'il revienne, là, c'est ça, des fois. Là.
Mais c'est un choix éclairé qu'elles font, ça c'est clair, on l'a bien compris, mais certaines le font de génération en génération. D'autres le font pour la première fois. Est-ce que vous avez remarqué une différence entre celles qui ont vécu là-dedans puis celles qui, autrement, ont dû s'acclimater?
Oui, bien évidemment que chez les femmes qui, par exemple, sont issues d'une famille de navigateurs, que la mère a vécu ça, que d'autres sœurs vivent ça, qu'il y a beaucoup, par exemple, de femmes de navigateurs autour d'elles, il y a un esprit peut-être plus de normalité, voire de banalisation de ce genre de vécu-là, parce que On a vu ça toute notre vie, si on veut.
C'est ça, la vie.
C'est ça. En même temps, je dirais que même pour celles qui ont vu ça toute leur vie, quand ça arrive pour la première fois à toi, que c'est ton mari qui part, je pense que c'est jamais facile. Mais peut-être que, en tout cas, dans le discours, il y a peut-être quelque chose de plus facile à accepter parce qu'on s'y attend un peu plus, on est plus habitué à ça, là.
Bien, merci beaucoup, Marie-Pierre Bouchard, de nous avoir fait découvrir à la fois l'autonomie, la résilience, la force de ces femmes-là.
Ça fait plaisir.
Le long du quai, les grands vaisseaux que la houle incline en silence ne prennent pas garde au berceau que la main
devant l'océan. Ici, sans aucune empreinte, l'océan m'a laissé. Et toi, tu attises ton visage de toutes les saveurs et t'offres entre les paumes affriolantes de certains éclairages. Passion des entre-nuits, âpre témérité des flots. Il fait un temps de fatigue heureuse et de brise singulière, un temps accompli d'attisement et d'étrangeté. Mené par tes yeux. Dans les battures anticipées où tu te lis à moi, je te songe. Parfois, je suis le graveur ivre de ton corps, parfois le scribe de tes désirs. Du même amour, je me sens tantôt l'homme et tantôt la femme.
La vie de ces femmes était un choix assumé, mais pas toujours simple, il faut le dire. Elles ont développé une autonomie remarquable. Dans le prochain épisode, on va découvrir certaines qui, de mère en fils, ou quand les femmes assurent et assument l'avenir de leur garçon, et ou de leur mari à travers trois exemples, Mathilda, Bella et Cécilia. Notre invitée, Catherine Melançon, historienne de l'art, commissaire durant 3 ans au Musée maritime de Charlevoix, s'est passionnée pour les femmes au pays des goélettes. Ce balado est rendu possible grâce à un appui du ministère de la Culture du Québec et au travail d'une équipe exceptionnelle, notre magicienne réalisatrice, Francine Plourde, à la recherche et au trésor artistique, Alexis Desgagnés, Marianne Rainville, qui est l'idéatrice et la porteuse de passion des goélettes, et notre technicien, Alexis Tremblay. Ce balado est enregistré au Domaine Forget et c'est une production du Musée maritime de Charlevoix.